remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Et à toutes et bienvenue dans Ondes Femmes Radio Zone 93.8 en direct comme tous les mercredis, d'abord de 17h à 18h30 dans Remue-ménage et puis 18h30-19h avec les nouvelles et surtout l'agenda proposé par Marjolaine. Situation un petit peu spéciale jusqu'au retour de Viviane, à qui nous souhaitons, puisque peut-être elle nous écoute. Tout plein de bonnes choses. Alors aujourd'hui, dans Remue-ménage, eh bien, nous retrouvons pour la dernière fois avant l'été nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève. Bonjour Annette, bonjour Evelyne.
Bonjour Catherine.
Et nous avons bien sûr toutes sortes de livres à vous proposer pour l'été, certains plus exotiques que d'autres. Mais il y en a plein que vous proposeront nos amis. Et puis, un événement à vivre juste avant de partir en vacances, puisque la librairie L'Inédite vous propose de venir assister à une signature qui réunira des personnes qui en ce moment font beaucoup de bruit dans la République. Alors, de qui s'agit-il, Annette et Evelyne?
De femmes, bien sûr.
Bien sûr, quand même, ça. Hein, ils n'auraient pas gagné grand-chose s'ils n'avaient pas trouvé tout de suite ça, nos auditeurs et tristes.
Alors, il s'agit donc d'une signature à l'occasion de la parution de deux livres qui évoquent un événement qui a été très important pour nous au mois de mars, c'est-à-dire l'élection de Ruth Dreyfus, mais surtout la non-élection de Christiane Brunner, qui sera donc à la librairie vendredi après-midi pour signer et parler du livre écrit par Catherine Doutweiler, dont le titre est « Pardon, monsieur » et le sous-titre « Chronique d'une élection turbulente au Conseil fédéral » édité aux éditions Zoé. Un deuxième livre sera aussi à disposition à la librairie et il s'agit des « Lettres à une femme qui ne sera pas conseillère fédérale ». Il s'agit toujours de Christiane Brunner, bien sûr. Et le titre, c'est « Chère Christiane ». On a déjà parlé de ces lettres dans un certain nombre de journaux et de quotidiens récemment.
Mais il faut l'avouer, on a surtout parlé du livre de Catherine Doutweiler, bien évidemment,
voilà, bien
puisque ce livre-là est en train de soulever la tempête et le psychodrame, surtout, disons-le bien, au sein du Parti socialiste genevois.
Bien sûr. Et il faut dire que ce livre évoque évidemment quelques démêlés des députés et notamment de certaines déclarations de Jean Sigler, mais c'est une toute petite partie du livre, disons-le. Ce qui compte, c'est surtout comment ça se passe sous la coupole et c'est très très bien raconté.
Alors est-ce que, justement, parce que tout à l'heure au téléphone, enfin ce matin, quand on en discutait avec Evelyne, je lui disais, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes autour de ce livre lors de la signature? Alors, parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui ne doivent pas forcément toutes être d'accord de soutenir un livre qui, comme ça, est-ce que vraiment il soulève des questions importantes? Tu l'as lu, toi, Annette?
Alors, je l'ai lu, en tout cas parcouru, plus que parcouru, et je crois qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord tout à fait avec tout ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas. Je pense qu'effectivement, il y a des problèmes et des questions soulevées avec lesquelles on peut avoir d'autres opinions. Mais il me semble qu'il a en tout cas un mérite, ce livre, c'est de participer, si je puis dire, à la transparence qu'on réclame tellement de la part des milieux politiques. C'est assez rare. Et je crois que dans ce sens-là, c'est presque raconté comme un petit roman policier, le fameux week-end où on a décidé que ce serait plutôt Ruud Dreyfus se présenterait avec Christian Brunner le fameux deuxième mercredi. Et c'est raconté d'une manière presque désopilante, mais ça donne vraiment presque heure par heure la manière dont les décisions se prennent à l'intérieur des partis. Et dans ce sens-là, je crois que c'est tout à fait intéressant, même si après on peut dire qu'ils auraient quand même dû plutôt faire comme ci ou comme ça. C'est aussi intéressant de savoir comment ils ont fait en réalité.
Oui, mais la démarche de Catherine Neudweiler, au bout du compte, quelle est-elle? Son idée, c'est de quoi? C'est de montrer qu'il y a effectivement encore un fonctionnement au niveau des instances politiques fédérales, puisque c'est celles qui sont sous la loupe en l'occurrence, qui ne va pas et qui n'intègre pas effectivement les femmes, qui ne respectent pas les possibilités égales pour les femmes de se présenter à des postes de cette responsabilité-là. Qu'est-ce qu'elle vise?
Je crois qu'elle vise essentiellement à donner une information, mais elle prend pas une position clé en la matière. Je crois que ce qui sera intéressant de voir, c'est comment Christian Brunner, elle, relève en quelque sorte le défi posé par Madame Neudweiler.
Elle sera vendredi.
Elle sera la vendredi.
Alors, j'espère qu'effectivement, elle sera vraiment là, qu'il y aura quoi discuter. Parce que je suppose que les femmes doivent quand même être un petit peu partagées par rapport à ce type de prise de position.
Tout à fait, tout à fait.
Vous avez des échos de cela, par exemple?
Oui, on a eu certains téléphones de femmes qui nous soutiennent généralement et qui n'étaient pas d'accord avec le cautionnement, comme elle disait, de cette séance de signature du livre, monsieur. Mais nous avons, je dirais...
Qu'est-ce qu'elle reproche,
parler,
en fait?
Personnellement, dans ce cas-là, il s'agissait d'une femme qui défendait plutôt Jean Tiglère. Donc, apparemment, elle était mal à l'aise par rapport au dire de cette journaliste, Catherine Neudweiler. Donc, elle n'était pas d'accord, pensant qu'on calomniait... Jean Tiglère, et elle était plutôt alignée sur sa position à lui. Bon, alors nous, on va de toute façon pas entrer dans les polémiques du Parti Socialiste Genevois. C'est pas nos affaires et c'est pas notre intérêt. Mais on a toujours été derrière la candidature de Christiane Brunner, donc on va pas, on continue d'être avec elle puisque d'une certaine manière, c'est une c'est encore un épisode de cette élection. C'est peut-être le dernier, je ne sais pas, mais pour elle. Mais on était avec elle pendant tout ce chemin. Donc, on ne va pas ne pas être là à la fin. Donc pour moi, ça me paraît assez logique qu'on soit là et présente au moment où elle veut signer ce livre. Je voulais juste ajouter, par rapport à Catherine Neudweiler, moi, je n'ai pas lu ce nouveau livre. Pardon, monsieur. Mais par contre, j'avais lu le livre par lequel elle s'est fait connaître, qu'elle avait fait sur Elisabeth Kopp. Et donc, il y a un certain fil conducteur dans ces démarches. Elle s'est intéressée aux femmes en tant que conseillère fédérale, et plus précisément à la première conseillère fédérale qui a mal fini. Et son livre était très intéressant. C'est un peu comme on dit quelquefois le livre d'une journaliste, dans la mesure où c'est pas un ouvrage a fait de profondes recherches historiques sur le sujet, mais qui était quand même très bien documenté. Et donc, ça me paraît assez logique qu'elle ait continué à travailler maintenant sur cette deuxième ou troisième élection, si on compte Liliane Ourtenagen, de femme au Conseil fédéral qui s'est un peu mal passée. Voilà. C'est ce que je voulais dire.
On peut qu'encourager nos auditrices.
Entre 16h et 17h30, à la librairie L'Inédite. Après, elle se trouve à la librairie du boulevard de 18h à 19h30.
Marathon.
Les mêmes personnes.
Oui, ça sera un marathon.
Mais je crois que ce qui est effectivement intéressant dans votre proposition de signature, c'est que les femmes ont l'occasion de rencontrer Christiane Brunner, parce que dans tout le psychodrame du Parti Socialiste, quand je dis psychodrame, c'est bien parce que ce que je ressens, je trouve que c'est un lavage de linge sale de famille dont personne n'a vraiment grandement envie de partager les épisodes outrageants. Mais disons, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment ce que peut ressentir Christiane Brunner, qui est la personne intéressée dans l'histoire, non pas tellement par les personnes, mais effectivement de voir le principe, les mécanismes qui font que soit on empêche, on fait tout pour empêcher qu'une femme accède à une certaine femme, parce que je crois qu'il faut bien le spécifier, c'est pas n'importe quelle femme. Et puis, est-ce qu'elle a envie que ça se discute ? Parce que c'est bien ça la question, ouais. Quand on écrit un livre, c'est qu'on a envie que ça devienne un débat sur la place publique. Et est-ce que Christiane Brunner a envie que ça se passe ?
Nous verrons vendredi.
Voilà. Alors, on vous le rappellera tout à l'heure, mais déjà, vendredi 25, librairie L'Inédite des Femmes à Genève, rue Cardinal Mermillot, 16h-17h30. Et ensuite, librairie du Boulevard. Alors pour aujourd'hui, bien évidemment, nous allons vous proposer des livres qui n'ont rien à voir avec les deux livres en question. Ça, comme on l'a dit, venez les découvrir directement sur place. Alors peut-être avant de se mettre dans l'histoire, on annonce tous les livres dont nous allons parler et puis on se mettra en musique dans l'ambiance du premier. Alors Evelyne, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ?
Alors moi, je me suis rendu compte que j'avais une certaine continuité dans cette émission et j'ai encore aujourd'hui un livre, une biographie d'une femme née en 1874, morte en 1920, qui se nomme Inès Armand et qui a participé de très près à la révolution bolchévique de 1917.
Ah, c'est vrai que la ligne conductrice est évidente.
Alors, après Rosa Luxembourg et Clara Zetkin, j'ai trouvé cette biographie à la librairie. Je me suis dit, tiens, je vais compléter un petit peu mon information. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir cette femme, bien plus inconnue que les deux autres.
Ça, c'est clair. Avouerai-je à ma grande honte. Evelyne, tu nous proposes quoi ?
Moi, j'ai apporté le dernier roman d'Isabelle Allende, Le Plan Infini. Et j'aimerais en parler un peu. Et puis peut-être, si le temps nous le permet, vous lire un des petits contes d'Isabelle Allende pour vous donner un aperçu de sa manière d'écrire et puis du monde fantastique qui l'inspire.
Mais je suis sûre que nous aurons le temps de lire des petits contes de la Lune, c'est ça, comme ça
Deva Luna, les contes d'Eva Luna, qui était un de ses autres romans, Eva Luna.
D'accord. Alors tout de suite, nous nous mettons dans l'atmosphère de l'ex-URSS. Je n'ai pas choisi la Russie, j'ai choisi une autre république, puisque c'est le Tadjikistan dans lequel je vous emmène. Thank you. C'est donc la voix d'une femme du Tadjikistan que vous entendez. Je ne sais pas si j'ose dire son nom, de peur de le déformer. Falak Golchere Sadikova. Et qui, le Tadjikistan, une république bien lointaine de la Russie d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais je pensais que ça valait la peine de se transporter une fois ailleurs. Alors Annette, l'histoire d'Inès Armand, 1874-1920, cette femme que, effectivement, dont je ne connaissais pas du tout l'histoire. Alors je me réjouis d'en entendre parler par toi.
Inès Armand est d'ailleurs donc une de ces communistes enterrées au mur du Kremlin, qui est donc le panthéon communiste, comme d'ailleurs Clara Zetkin dont nous parlions il y a quelques semaines. Je vais peut-être commencer par vous lire un petit extrait du livre où Georges Bardaville, qui n'est pas un biographe connu, ni quelqu'un qui, ni un historien qui s'est spécialement intéressé à cette période-là de l'histoire, explique pourquoi Inès Armand. C'est la première question, celle qu'avant tout autre, je m'entendrai poser lors de mes visites à l'innombrable descendance, dans mes rencontres avec les historiens de tous bords, les gardiens d'archives, ceux qui furent communistes et ceux qui ne savent pas s'ils peuvent dire qu'ils le sont restés. Peut-être se trouvent-ils des destins auxquels nous ne saurions pas plus échapper que s'ils étaient les nôtres. Sinon, comment expliquer cette force qui m'a poussée, moi qui n'ai jamais été communiste, ni même compagnon de route, à consacrer tous ces longs mois, toutes ces pages à une bolchevique surannée, une madone des soviets, reléguée dans l'opprobre ou l'indifférence. Peut-être est-ce tout simplement parce que l'histoire de cette femme au destin tragique me touche et me fascine. Mais peut-être est-ce plus encore parce qu'elle est de ces personnages de second plan dont la vie banale et singulière semble soudain coïncider, par-delà les frontières et le temps, avec un moment de l'histoire du monde. Et je trouve qu'avec ces quelques mots, Georges Bardaville introduit très très bien son sujet. Et comme lui, j'ai été fascinée en fait par l'histoire de cette femme dans l'originalité de son destin. Et aussi le fait qu'effectivement c'était un personnage de deuxième zone, puisqu'on ne la connaît pas. Elle n'a pas forcément été reconnue après sa mort, mais on sent très bien, après toutes les recherches qui ont été faites, et il faut de nouveau rendre hommage à cet homme qui a fait l'effort de rechercher en fait l'histoire de cette femme. On arrive à voir à quel point elle était importante à cette époque-là, et elle est tombée dans l'ombre. Et je crois que c'est le mérite de ces biographies de nous mettre en contact avec des gens qui ont fait l'histoire d'une autre manière.
Alors découvrons peut-être de nouveau par le biais de la biographie et de la chronologie ce qu'elle est l'histoire d'Inès Armand.
Oui, alors Inès Armand, ça sonne d'ailleurs un petit peu étrange. Hein. Pourquoi Inès, pourquoi Armand?
Très français en tout cas pour quelqu'un qui a vécu en Union soviétique.
Oui, donc effectivement... Armand est d'abord le nom de son mari. Ce n'est pas son nom de jeune fille. Elle est née donc en 1874 à Paris. Sa mère était une moscovite qui était venue en France pour faire du chant. Elle a épousé un ténor du théâtre à Paris, qui s'appelait Stéphane, Théodore Stéphane, et ils ont eu trois filles. Inès était la première, ils l'ont prénommée Inès parce qu'ils étaient fous d'opéra et qu'ils avaient envie de donner un prénom exotique à cette petite fille. Cette famille n'a pas eu beaucoup de chance. Ils ont eu très vite des déboires financiers. Et après la naissance des deux autres petites filles, il s'est trouvé que le couple ne s'entendait plus très bien et Inès, l'aînée, est tout de suite a dû quitter la France avec sa grand-mère, donc la mère de Nathalie, sa maman. Donc en fait, Inès Armand est née en France, mais a vécu, pour ainsi dire, toute sa vie à Moscou. Et elle est, même si son nom ne le dit pas, en fait, c'est une réelle moscovite. De retour à Moscou, la petite Inès est donc élevée par sa grand-mère et sa tante, et la tante Hélène, qui est un des personnages importants pour elle. Mais en fait, elle vit la vie d'une petite bourgeoise à Moscou, des gens pas très fortunés, mais quand même qui peuvent payer des écoles privées à cette petite fille. Et elle entre en contact avec des bourgeois riches. À l'époque, à Moscou, il y avait énormément de familles immigrées anglaises, françaises. Et c'est à cette occasion-là qu'elle rencontre donc, la famille Armand, qui possédait pas mal de propriétés aux environs de Moscou. Et elle les a rencontrés à plusieurs reprises. Elle passait l'été dans une campagne à l'extérieur de Moscou. Et c'est là qu'elle a rencontré donc, son mari, Monsieur Armand. Elle l'a épousé très jeune. Et très vite, elle s'est intéressée à la vie donc, des paysans, des moujiks, qui étaient présents dans la propriété de sa belle-famille. Elle s'est mise d'ailleurs à aider son mari à gérer le domaine et elle était très proche déjà des idées socialistes. Donc elle avait envie de créer des écoles, d'alphabétiser ces gens qui vivaient d'une manière extrêmement pauvre et extrêmement misérable. Donc ça a été en fait ça, ses premières ambitions. C'était de participer à une amélioration de la condition d'une part des gens très pauvres en Russie. Et elle s'est aussi tout de suite intéressée à la question des femmes. Elle a fait partie d'ailleurs à Moscou de groupements féministes. Il y avait pas mal de jeunes femmes intellectuelles russes qui s'intéressaient, qui étaient bien formées.
C'est ce que j'allais te demander. Ouais. En fait, c'est certainement parmi les intellectuels qu'elle retrouvait ces femmes-là.
C'était des intellectuelles bourgeoises, mais qui, effectivement, avaient l'occasion et la possibilité de se cultiver, de se poser des questions et de se profiler d'une certaine manière dans la mouvance des idées qui révolutionnaires et socialistes. Et souvent, ce sont les femmes qui ont été les plus actives dans ce domaine-là. Elles avaient le temps. Ça c'est sûr, elles avaient l'occasion de se rencontrer. Elles étaient peut-être aussi plus sensibles à certains aspects de la société russe qui était vraiment extrêmement décadente, probablement à l'époque, et où il y avait donc tout ce ferment révolutionnaire très très important, d'ailleurs celui dont on a parlé la dernière fois avec Clara Tsitkine.
Voilà. Et puis alors, elle va rester, mais alors elle vit essentiellement dans un milieu à la campagne, un milieu campagnard.
Alors très vite, elle a eu très vite des enfants. Et puis, elle en a eu vite assez de la vie, justement, campagnarde. Elle a très vite revendiqué son indépendance personnelle. Et là, elle a eu une vie assez mouvementée sur le plan affectif. Et après sa troisième grossesse, qui se passe bien d'ailleurs, elle a rapidement trois enfants, elle décide de vivre un petit peu entre la campagne et Moscou. Elle a déjà une vie assez indépendante et son mari d'ailleurs, qui était extrêmement admiratif devant la volonté et les idées de sa jeune femme, en fait lui a laissé énormément de liberté et a respecté ses choix et ses désirs. Bon, disons que ça a été pour eux une vie un petit peu compliquée, dans le sens que après la naissance du quatrième enfant, Inès, tous très très rapprochés, Inès s'est sentie vraiment complètement enfermée dans un rôle de femme et de mère, à l'image de ce qu'elle voyait de sa belle-mère, et elle s'est révoltée. Intérieurement et aussi extérieurement, mais enfin surtout, elle a donc décidé de reprendre des activités personnelles et elle a à ce moment-là d'ailleurs eu une aventure assez sérieuse avec son jeune beau-frère et un cinquième enfant qui est donc pas l'enfant de son mari mais qui a été reconnu comme tel. Donc en fait, c'est une femme mère de cinq enfants qui part d'ailleurs de Moscou, s'exile volontairement avec non pas son mari mais son jeune beau-frère parce qu'il fallait un peu calmer le scandale familial. Donc le début de sa vie est quand même marqué par des aventures affectives, amoureuses, familiales et elle n'est pas encore tout à fait installée dans la mouvance révolutionnaire et bolchevique.
Est-ce que dans cette biographie, on évoque quelles pouvaient être les préoccupations des femmes à ce moment-là? Quand tu me dis qu'elle a eu 4, 5 enfants coup sur coup et que justement elle sentait ses enfants comme une entrave à sa vie de femme, est-ce à dire qu'à l'époque, le problème de la contraception ou autre était une préoccupation?
On en parle très peu dans le livre. Et je pense qu'effectivement, le biographe, il a suivi plutôt la vie d'Inès Armand qui, elle, a réussi après à se protéger d'une façon ou d'une autre, à vivre d'une façon plus chaste probablement, puisqu'ensuite son amant est mort assez rapidement d'une tuberculose et elle a vécu après d'une manière extrêmement chaste, donc sans avoir des préoccupations de ce type-là. C'est évoqué, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'elles avaient une vie difficile quand même. Mais ce n'est pas le sujet, en fait, du livre.
Et les associations de femmes, on ne sait pas non plus sur quoi elles se mobilisaient à l'époque.
Non, ce n'est pas un livre qui se base... c'est plutôt tout l'itinéraire de cette femme. Comment est-ce que, peu à peu, elle prend conscience des problèmes de son pays? Comment elle essaye de gérer sa vie affective et ensuite ses préoccupations sociales. Au début, elle a été beaucoup plus préoccupée par elle-même, le mariage, ses amours. Et ensuite, on voit bien que tout ce qui est prégnant pour elle, c'est plutôt la condition de ses semblables, la prise de conscience que c'est pas possible, que dans la Russie tsariste, on arrive à respecter certaines règles morales, et le besoin qu'elle a de lutter et de participer à un changement. Ça, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus important, en fait, dans la conduite du livre.
Alors, quel va être l'événement ou la rencontre, enfin, qui va justement la faire rentrer de façon plus importante dans cette prise de conscience dont tu viens nous parler?
Alors, en fait, il y a deux événements, peut-être qu'il faut clé dans la vie de cette jeune femme. À un moment donné, elle vient habiter à Genève, en fait.
Beaucoup de Russes venaient à Genève.
Beaucoup de Russes venaient à Genève et il y avait J'aimerais trouver le passage où elle rentre chez elle, c'est après. Mais en fait, elle est venue à Genève après donc la naissance du cinquième enfant. Elle a vécu un certain temps exilée, mais deux de ses enfants étaient venus avec elle. Et c'était donc, comme je l'ai évoqué avant, pour effacer un petit peu le scandale familial qu'elle avait créé en ayant un enfant hors mariage. À ce moment-là, elle est installée à Genève pendant un certain temps et elle fait connaissance avec des émigrés russes qui étaient justement issus du mouvement révolutionnaire. Elle allait prendre des livres de russes à la librairie russe à la rue d'Iseran. Et c'est là qu'elle s'est peu à peu initiée, en fait, aux idées de ces révolutionnaires, où elle a vraiment adhéré aux idées socialistes et qu'elle a même accepté de participer à la clandestinité. Comme elle était considérée comme une bourgeoise russe riche et qui n'était pas affichée déjà par l'Okhrana, plus tard elle le sera bien sûr, mais à ce moment-là elle était encore au-dessus de tout soupçon. Elle est rentrée en Russie après quelque temps et elle avait dans ses bagages une quantité de livres, peu appréciés par le régime tsariste. Et elle a traversé tranquillement la frontière russe avec les bagages bourrés de littérature compromettante. Donc ça a été pour elle le premier contact, le premier engagement personnel avec la révolution russe.
C'est étonnant d'ailleurs qu'elle prenne conscience en dehors de la Russie, c'est-à-dire que c'est plus par souci de retrouver des gens proches de sa vie qu'elle a retrouvé des Russes, et pas tellement par prise de conscience avec la réalité de l'époque.
Je pense que c'était effectivement pour elle une occasion unique de voir d'autres idées, parce qu'il y avait aussi l'influence des socialistes français tout proches, par exemple.
Elle a croisé Lénine ?
Vous verrez qu'elle a croisé Lénine. Dar kurtana begun jatanimos